Ok, shalom à tous. On continue le cours sur Purim. On va prendre le Makor, la source numéro 31. Prenez la source numéro 31. Ok, c'est un extrait du Talmud Yerushalmi, dans Maseret Brachot, où on raconte l'histoire suivante. Rabbi Chiya Rabba, Rabbi Chiya le Grand, Ve Rabbi Shimon ben Chalafta. Et Rabbi Shimon, fils de Chalafta. Havu me'alchin. Ils allaient. Havu, c'est Hayu. Me'alchin, c'est Olchim. Donc ça veut dire ils allaient, ils se promenaient. Ou ils marchaient, plutôt. Behada, dans cette. Bikat, dans cette vallée de Arbel. Il y a une vallée qui s'appelle, en Israël, qui s'appelle Arbel. C'est une montée et une descente que les Chayalim, que les soldats y font. Avec tout sur leur dos, c'est une montée très élevée, qui est à côté du lac de Tibériade. Hamash, à côté du lac de Tibériade, qui s'appelle la vallée de Arbel. Donc ils se baladaient dans la vallée de Birkat Arbel, dans la vallée de Arbel. Bekritsata, c'est quoi Bekritsata? C'est juste avant le lever du jour. Juste avant le lever du jour. C'est bien? Maintenant, pourquoi c'est important dans cette histoire? Rabbi Chiya, qui est-il? Alors, Rabbi Chiya, c'est l'élève de Rabbi Yehuda Hanassi. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est lui qui va compiler les Mishnayot. Non, pourquoi c'est très important de savoir ça? Parce que Rabbi Chiya, non seulement il va compiler les Mishnayot, il va aider Rabbi Yehuda Hanassi, comme tous les élèves de Rabbi Yehuda Hanassi, à compiler les Mishnayot, mais lui, il va compiler la Tosefta. Alors, ça, c'est très important. Tosefta, c'est comme une Braïta. C'est-à-dire, c'est aussi les paroles de nos Tanaïm, des Tanaïm, des sages de l'époque de la Mishnah. Mais la Tosefta, contrairement aux autres Braïtot, elle a été vue et lue par Rabbi Yehuda Hanassi. Ce qui veut dire que quoi? Qu'une Tosefta, ça a une force au niveau de la loi plus forte qu'une Stam Braïta. Quand tu, par exemple, tu dis Détania, Vehatania, etc., quand tu ramènes une Braïta, ou des Tané, etc., dans la Gemara, alors tu ramènes une Braïta, tu ramènes les paroles des Chachamim. Mais quand tu dis Tanou Rabanan, en principe, c'est une Tosefta. Nos rabbins ont enseigné Tanou Rabanan, des Tanou Rabanan, ça, c'est une Tosefta. Et cette Tosefta, ça a été écrit par Rabbi Chiya. Et Rabbi Chiya, c'est l'élève de Rabbi Yehuda Hanassi. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand il y a qu'on va dire quelque chose de très fort au nom de Rabbi Chiya. Maintenant, si c'est Rabbi Chiya qui parle, et que lui, il a écrit les Tosaftot, et le Tosefta, c'est comme la Mishnah, ou c'est le complément de la Mishnah, quand Rabbi Chiya y parle, c'est la Torah chez Baal Peh qui parle. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas n'importe quel Tana. Comme quand Rabbi Yehuda Hanassi y parle, c'est pas n'importe quel Tana. Il y a plusieurs Tanaïm, il y a plusieurs niveaux de Tanaïm. Donc quand Rabbi Chiya, il parle, c'est toute la Torah chez Baal Peh. C'est toute la Torah orale, c'est toute la Mishnah qui parle. Vous avez des feuilles devant, fais passer toutes les feuilles, gamme les feuilles, les trucs derrière, comme ça quand les gens les arrivent, ils peuvent recevoir. C'est bien? Maintenant, à quelle époque Rabbi Chiya a vécu? Vous vous rappelez? Rabbi Yehuda Hanassi, il a compilé la Mishnah en l'an 200 pour refaire les choses dans leur ordre. En 68, c'est la destruction du second temple. Ok? À cause des Romains. Et c'est les Romains qui vont détruire. En 68. En 132, qu'est-ce qui se passe en Israël? Révolte de Bar Korva. On décide de se révolter. On prend les armes et on va combattre l'Empire romain. Ça va durer 3 ans. Bar Korba, c'est l'époque de Rabbi Akiva. Après Rabbi Akiva, il va perdre tous ses élèves. Ensuite, il va refaire des élèves. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Elazar, Rabbi Yehuda et Rabbi Elai. Tous ces Tanaïm-là, c'est des Tanaïm énormes. Après l'époque de Rabbi Akiva, en l'an 200, compilation de la Mishnah. Il ne reste plus beaucoup de Talmidei Chachamim en Eretz Israël. Ils sont tous à Tibériade. Et ils commencent à partir vers Bavel. Vers Bavel. C'est là où Rav, Resh Bet, c'est pas son titre, c'est son nom, son prénom. Rav, qui était le neveu de Rabbi Yehuda Hanassi, monte à Bavel, descend, à Bavel, on monte pas en Bavel, on descend, et il rencontrera Shmuel, et ça va être les premiers Amoraïm. C'est Rabbi Yehuda et Rabbi Chiya, c'est le passage des Tanaïm aux Amoraïm. On finit la Mishnah, on commence la Gemara. C'est-à-dire? Donc là, Rabbi Chiya, pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que Rabbi Chiya, ça y est, il enclenche le début de la galoute de la Torah. Parce que la Mishnah, c'est la Torah qui est écrite en Eretz Israël. Mais la Gemara, c'est la Torah qui est écrite en Chutz Laaretz. Ça, c'est nos Amoraïm. Donc, Rabbi Chiya, c'est le passage entre la Geoula, où on est encore en Eretz Israël, il y a encore la Torah, même s'il n'y a plus le Beth Amikdash, mais encore les Talmidei Chachamim, et il passe en Bavel, c'est-à-dire la Torah est en train de passer, la Shrina est en train de passer d'Eretz Israël en Bavel, en Babylonie. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, faites très attention, Bekrit Sata, je rappelle, c'est juste avant le lever du soleil, du jour. Et qu'est-ce qu'il voit? Raou, mais alors, pourquoi c'est important? À chaque fois que la Gemara nous parle d'une chose qui s'est passée chez des Tanaïm, ou chez des Amorim, chez des Rabbanim, Zedoresh Limoun, ça exige de nous une étude. Alors, c'est quoi l'étude que le Talmud Yerushalmi apprend de ça? Raou, Ayelet Ashachar. Ils ont vu la Ayelet Ashachar. C'est quoi Ayelet Ashachar? C'est une expression. Si je traduisais ça en ivrite, ça serait Kohav Ashachar. C'est l'étoile du matin. C'est-à-dire, c'est la première lueur du soleil après la nuit. Il y a toute la nuit. Chatzot, c'est le summum de la nuit. Et juste quand tu commences à voir la nuit sortir avec une lueur de lumière, ça s'appelle Ayelet Ashachar. C'est-à-dire, Shachar, c'est le matin. Ayelet, c'est la gazelle du matin. C'est-à-dire, c'est le retour de la vie sur Terre. Ça, c'est Ayelet Ashachar. Donc, il voit ça. Maintenant, quand de Chachamim, il voit un événement de la nature, ils ne peuvent pas dire, ah ouais, Ayelet Ashachar, pas mal. Non. Ils ne restent pas indifférents par rapport aux événements de la nature. Ils apprennent des événements de la nature. La Gemara nous dit, c'est quoi la définition d'un tzaddik et c'est quoi la définition d'un rachat? C'est important de savoir ça. C'est quoi la définition d'un tzaddik et d'un rachat? Je vais vous dire. Le tzaddik, c'est celui qui voit le soleil se lever. Donc, quand il irait pour voir le soleil se lever, il a dû se lever avant le lever du soleil. Il voit le soleil se lever et il dit, il fait une bracha. Quand il voit le soleil se lever, il fait une bracha. Ça, c'est un tzaddik. C'est quoi le racha? C'est qu'il voit le soleil se lever, ça ne l'intéresse pas, il ne fait pas de bracha. Ça marche? Maintenant, vous êtes des tzaddikim ou des reshaim? On est des tzaddikim ou nous sommes des reshaim? Faites une bracha sur le soleil? Non, vous ne faites pas bracha sur le soleil. D'accord? Birkat hachama une fois tous les 70 ans, c'est bien? Tous les 28, c'est bien. Tous les 28 ans, t'as raison. Nous, moi aussi. Alors quoi? Il faut faire tchouva. Non. T'as raison, mais ça c'est... Si c'est vrai, si t'es au Machon Meir, toutes les deux secondes tu fais une bracha. Parce que... Meir, il y a plein de lumière. Il te dit le lever du soleil. Quand le soleil se lève, il est waouh, le lever du soleil. Il fait la bracha pour remercier Akadosh Baruch Hu. Chazak, c'est pas un machal. L'agman il fait, quelle bracha il fait? Réponse. Il a créé la lumière. Vous faites la bracha yotzer or? Nahon. Vous savez c'est quoi le problème? C'est qu'on ne fait aucun rapport entre la bracha et le lever du soleil. Ah, il y avait un rapport? C'est pour ça que je fais la bracha? Donc on n'est ni tzadik ni racha. On est benoni. Maintenant je vais vous donner deux possibilités du benoni, d'entre les deux. Ni tzadik ni racha. Il y a des personnes qui font Ruchat Hashem Elokeinu Melech Yemetzer Ruchat Hashem Elokeinu Melech Yemetzer. Ils font la bracha. Et quand on lui demande, t'as vu le soleil? Non, ça ne m'intéresse pas. Mais ils ont fait la bracha. Et t'as des personnes, ils voient le soleil, ils sont en Inde, ils sont en pleine méditation, ils voient le soleil se lever. Waouh, mais c'est magnifique! Mais eux, ils ne font pas la bracha. Qu'est-ce qu'il vaut mieux être? Ben, je vous dis, ni ça, ni ça. Ils vont être tzaddik. Tzaddik de voir le soleil. Waouh! Et de l'echaber, de lier ça à la bracha. Ça, c'est la Gemara qui dit. Si tu lis la bracha, tu attaches la bracha au lever du soleil, t'es tzaddik. C'est-à-dire, il a fait. Pourquoi on a oublié ça? Parce qu'on est parti en galoute. Et quand on est parti en galoute, on a vécu, on s'est créé un monde détaché de la nature. Alors que tout ce qui est en rapport avec les brachot, c'est on Eretz Israël et c'est rattaché avec la nature, avec les événements naturels. Il faut rattacher les événements naturels au divin. Ça, c'est ce que la brachot nous font. Il a fait. Et regardez qu'est-ce qu'ils ont appris lorsqu'ils ont vu la première lueur de la nuit. Raoua Yelet Ashachar chez Baka Ora. Ils ont vu l'étoile du matin, c'est comme ça s'appelle. La première lueur du matin, c'est l'étoile du matin en fait. Chez Baka, c'est quoi Baka? Qui a percé Ora sa lumière. Amar Rabbi Chiya Rabba, Rabbi Chiya le Grand, a dit les Rabbi Shimon ben Chalafta Berabi. Il a dit à Rabbi Shimon ben Chalafta. Il lui dit la chose suivante. Kari Geulatam chez l'Israël. C'est comme ça que la Geoula d'Israël vient. C'est comme ça qu'elle vient la Geoula, la libération d'Israël. Comme cette étoile du matin, comme cette Ayelet Ashachar. Comment? Bitrila kima kima. Au départ, elle vient kima kima. C'est quoi kima kima? Shuya shuya. Petit à petit, petit à petit. C'est-à-dire un peu à peu. Étape après étape. Doucement, doucement. Elle vient pas en un instant, la Géoula. Kol shiye olechet. Irabave olechet. Par contre, plus elle avance, olechet, iraba, elle grandit, ve olechet, elle continue d'avancer. Comme l'étoile du matin. Elle vient pas en un instant, la lumière. Elle vient petit à petit. Et Rabbi Ria, il dit, tu veux savoir comment la Géoula viendra? Kaha, c'est comme ça qu'elle viendra. Maintenant, je suis choqué, moi. Jamais on m'a appris ça. Jamais on m'a appris ça. Moi, pendant une vingtaine d'années, qu'est-ce qu'on me disait que la Géoula viendra? D'un coup, en un instant. Mashiach now. Maintenant, il viendra. Pac. Pitom, tu t'entends pas. Boum, tu te reçois une Géoula dans la tête. Lo, dit la Gemara. Rabbi Ria, toute la Torah chez Balpé, il est en train de t'enseigner comment la Géoula doit venir. Kaha y Géoula tam chez l'Israël. Au début, doucement, plus elle avance, plus la lumière grandit. Mais c'est comme ça qu'elle vient. Maintenant, moi j'ai une question. Moi j'ai une question par rapport à Rabbi Ria. C'est quoi la question? Quand Rav il vient, il te dit la Géoula, elle vient doucement, doucement. C'est quoi ta question? Non. C'est quoi ta question? D'où tu sais? C'est quoi ton macor? D'où le ravissé, bon, on m'enseignait différemment. Pendant 20 ans, on m'enseigne différemment. Et jusqu'à ce jour, je rencontre des rabbanim qui me disent différemment que la Géoula, boum, elle vient. En une fois. D'où tu sais qu'elle va doucement, doucement? Le problème, c'est que la Gemara ne pose même pas la question. Rabbi Shimon, il pose même pas la question d'où il sait. Pourquoi? Parce que c'est pas chaud. Rabbi Ria, il est en train de le dire. C'est comme ça qu'elle vient. Nachon, que la Kadosh Bourou, il peut changer. Nachon, il peut faire d'un homme une femme, un homme, Jupiter, Mars, Mars, Jupiter. Il peut tout changer à Kadosh Bourou. L'eau, le feu, l'eau. Il peut tout. Mais Kaha Kavana, selon l'ordre naturel des choses, de la création, c'est comme ça qu'elle vient. C'est comme ça qu'elle vient. Et d'où il apprend ça? D'où il apprend ça? De la nature. C'est-à-dire qu'il est en train de nous expliquer que de la nature, tu peux apprendre la Géoula d'Israël. Ce qui veut dire que la Géoula d'Israël, c'est de l'ordre de la nature. C'est pas détaché de la nature. Il n'y a pas de système. Il n'y a pas un système qui s'appelle la nature et le système Géoula d'Israël. Le système Géoula d'Israël, de la libération d'Israël, ça rentre dans l'ordre naturel des choses. Alors c'est un naturel qu'on n'a pas l'habitude. La mer rouge, elle s'ouvre, c'est un naturel qu'on n'a pas l'habitude. C'est pas évident ça. Mais le Maharal de Prague explique que même l'ouverture dans la mer, c'est la chose la plus naturelle. Il n'y a rien de plus naturel que Yam Souf s'ouvre devant le Ham Israël. Il faut comprendre cette nature-là. Il faut rentrer au plus profond de la nature pour comprendre ça. Mais la nature a créé ça. Depuis la création, Yam Souf, il attendait ce moment, la mère des gens attendait ce moment, quand est-ce que le Ham Israël vient que je puisse ouvrir devant lui. Comme ça, il explique le Maharal de Prague. La Gemara, elle pose pas la question d'où tu sais, c'est quoi ton makor? Parce que Rabbi Ria, c'est la Torah chez Baal Peh. Regardez la question de la Gemara. La question de la Gemara, c'est Mai Tama. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Akadosh Bukhu, il n'emmène pas la Géoula en une fois? Pourquoi il envoie la Géoula Kim'a, Kim'a, la Géoula doucement, doucement? La réponse est la suivante. Il cite un pasouk qui dit Ki Echev Bachosher. Lorsque je suis assis, Hachev, la chevette, demeuré, Bachosher, dans les ténèbres, Hachem, Orli, Hachem est lumière pour moi. C'est ça la raison. Vous avez compris? Hachem, il emmène la Géoula d'Israël doucement, doucement, parce que, qui Hachev, Bachosher, Hachem, Orli. Parce que le pasouk, il explique ça, le verset, il explique ça. Lorsque je suis assis dans les ténèbres, dans l'obscurité, Hachem, Orli, est ma lumière. Quel rapport? Quel rapport ce verset pour exprimer pour quelle raison Akadosh Bourou il emmène la Géoula doucement, doucement? Allez, Matem Omri, qu'est-ce que vous pensez? En quoi ça répond? On a posé, c'est quoi la, pourquoi Akadosh Bourou il emmène la Géoula doucement, doucement? Parce qu'il y a un passou qui te l'explique, qui est Chef Vachoshem, Hachem Orli. Quand je suis assis dans les rochers, dans l'obscurité, Dieu est ma lumière. Ken?
Dans l'obscurité, ça fait mal aux yeux, ça.
Chazak, il donne la réponse. Il dit, si Akadosh Bourou, il a emmené la lumière d'un coup, on sera aveuglé. Si Akadosh Bourou, il emmène la Géoula d'un coup, on sera aveuglé. Et donc, après que l'âme Israël était en galoute, il était dans l'obscurité. La galoute, c'est l'obscurité. Pour nous sortir de l'obscurité, il faut emmener une petite lumière et grandir petit à petit pour qu'on s'habitue à la lumière. Oui, mais moi j'ai un problème, Hillel. Moi, je suis un homme de la Gemara. Je veux être un homme de la Gemara. Où c'est marqué dans le verset ce que tu dis? Dans le verset, il y a marqué qui échève Vachoshem Hashem Orli. Quand je suis assis dans l'obscurité, Dieu est ma lumière. Où c'est marqué qu'il emmène une lumière doucement, doucement? À four, il y a marqué Hashem est ma lumière. Hashem, il arrive en tant que lumière. D'où c'est marqué que la lumière, elle est petite et qu'elle avance. Regardez le pasouk. Ok. Dans le pasouk, il y a marqué la réponse. Il est ce qu'il a dit, il a raison. Mais moi, je veux savoir où c'est marqué dans le verset. Tu ne peux pas me donner comme ça. Ouais, je pense que c'est comme ça. C'est marqué dans le pasouk. Il a fait. Pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est chef à Hashem Orli? On aurait dû marquer. Qui est chef Bachosher, lorsque je suis assis dans l'obscurité, Hashem Or, Dieu est lumière, ou Hashem Meir, ou Dieu éclaire. Il n'y a pas marqué ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Hashem Or Li. Il est lumière pour moi. Mais pourquoi? Pour être lumière pour moi, qu'est-ce qu'il faut? Qu'il vienne Kima Kima. Que la Géoula, elle arrive doucement, doucement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre de la Gemara, selon Rabbi Chia? Que la Géoula d'Israël, elle est en fonction de moi. Elle, si elle vient en un instant, alors ça m'éblouit. Alors ça ne sera pas une lumière pour moi, ça sera lumière. Hachem, il est lumière, mais pas pour moi. Hachem, or, li, pour moi, elle est lumière. Alors si tu veux, Hachem, que cette Géoula, elle m'éclaire, elle ne m'aveugle pas, alors tu es obligé de faire que la Géoula vienne Kima Kima. Pardon? Il n'a pas supporté la Torah. Mais non, c'est très bien. Peut-être c'est ça, Derhagav. Le fait qu'on n'ait pas pu supporter la Torah, d'après, c'est comme ça que Hachem voulait. Mais la Géoula, Hachem ne veut pas que ça se fasse comme ça. Hachem, il veut que ça soit une lumière pour moi. Maintenant, c'est quoi l'exemple? Il te dit, j'ai un exemple, Rabbi Chia. Et c'est quoi l'exemple qu'il va donner? Kar batechila. Ainsi, au départ. Au départ, il va donner l'exemple d'une Géoula. Au départ, ou Mordechai Yoshev Beshahar Ameler. Au départ, Mordechai est assis à la porte du roi. Vacharkar, et c'est ensuite, Vaikar Haman est à Levouche Vetasus. C'est ensuite que Haman, il va prendre le Levouche, l'habit du roi, Vetasus et le cheval royal pour emmener Mordechai. Vacharkar va Yeshev, Mordechai El Shar Ameler. Et ensuite, Mordechai, il n'est plus à la porte du roi, il est à l'intérieur du Shar Ameler. Et c'est seulement après que Mordechai sort devant le roi avec l'habit de royauté. Et c'est seulement après que la Yehudi Maïta Oraf Simra, que pour les Juifs, il y a eu de la lumière et de la joie. Dit Rabbi Chia, tu vois, Pourim, c'est exactement l'exemple de comment une Géoula vient pour le Ham Israël. On aurait pu dire que la Géoula vient en une fois. Tout de suite, Mordechai Yatsam Ilfina Meler Belevush Malchut. Que Mordechai directement, il y a une menace contre l'âme Israël à cause de Haman. Et Mordechai, qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il arrive à faire une action de libération du âme Israël grâce à Akadosh Bokhu. Et en un coup, la Géoula, elle vient. Mais Rabbi Chia est disant, c'est faux. On voit que dans Pourim, la Géoula, elle est venue Kima Kima. De la Gemara, de cette Gemara, de ce Talmud Yerushalmi, vous avez un accord pour dire que Pourim, c'est le stéréotype de la Géoula qui vient Kima Kima. Si vraiment qu'il y a une Géoula qui vient doucement, doucement, c'est Pourim. Maintenant, Pourim, ça a raté. Parce que ce n'était pas une Géoula Shlema. Pourim, ça a raté. Mais si tu veux savoir comment la Géoula viendra, mais cette fois elle réussira, il faut que tu connaisses Pourim. Il faut que tu saches comment ça se passe à Pourim. Si tu sais comment ça s'est passé à Pourim, ça reviendra dans l'histoire du Ham Israël. Alors là, tu pourras montrer du doigt, ça y est, ça c'est la Géoula du Ham Israël et tu ne tromperas pas. Parce que tu reverras tous les événements qui sont passés à Pourim et tu comprendras qu'on est en pleine Géoula. Ken, Shmuel, c'est bon? Mais c'est d'accord. Bien fait. Ken. Tu as raison, il faudra leur demander. Mais à la fin, quand on aura toutes les mécoroses, je pourrais donner une réponse. Je pourrais donner une réponse. Pour l'instant, on n'a pas assez. En tout cas, moi, qu'est-ce qu'on voit ici de la Gemara? Des mécorotes claires et entières que Kar Igeulatan chez l'Israël. Il y a d'autres mécorotes, je ne te cache pas, il y a d'autres psukim qui en parlent d'une Géoula miraculeuse qui vient en un instant. Alors on sera obligé après de prendre ces mécorotes-là par rapport à cette Gemara. Mais là, il y a un acte, il y a un enseignement très clair de Rabbi Chiya que tu ne peux pas expliquer différemment. Tu vois que Rabbi Chiya, il te dit, il y a une Géoula comme ça. Il y a une Géoula comme ça. C'est-à-dire que dans le Talmud, tu rencontres Rabbi Chiya qui va te dire, regarde, moi je vais te dire, on va partir en galoute. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Tant Rabbi Chiya, il sait qu'on part en galoute. Mais il ne sait pas pour combien de temps. Il sait que Edom, ça sera très long. La galoute de Edom, il ne savait pas que ça allait durer 2000 ans, mais ça va durer 2000 ans. Et il va donner un message pour la galoute. Lui, Otpam, c'est le passage de la vie en Israël et la sortie en Babel. Il se dit, sache que la Géoula viendra, mais elle ne viendra pas en une fois. Elle viendra étape après étape. Il faut écouter ce Rabbi Chiya. En tout cas, je vais te dire un truc. Peut-être, on voit d'autres écrits qui disent que la Géoula peut venir en un instant. Moi, il y a une blague comme ça, que les élèves du Rav Kook, que justement le Rav Kook il expliquait que la Géoula vient kima kima, qui vient doucement doucement. Il y a une blague contre les élèves du Rav Kook, que pitom le Mashiach en un jour il arrive. Et la Géoula elle arrive, le Beth Amikdash il descend. Alors tous les rabbanim, élèves du Rav Kook, se lèvent et disent, attends, c'est pas possible qu'il vienne maintenant. C'est-à-dire ça c'est une blague. Mais moi j'ai pas de problème avec ça. Si maintenant à Kadosh Baruch Hu, il fait descendre le Beth Amikdash, le Mashiach il arrive sur son âne, etc., etc., je ne commencerais pas à dire non, ça ne peut pas être lui, ce n'est pas possible, je n'avais pas prévu, ce n'était pas l'heure. Baruch que Yéhi Adonai-nous, Melech HaMashiach, on priera et on l'accueillera avec joie. Mais viens prendre l'autre côté des choses. Si la Géoula elle vient kima kima, et toi tu dis non, mais il y a des mécorotes que la Géoula doit venir en un instant. Et à cause de ça que tu ne participes pas à la Géoula qui vient doucement, doucement, tu te trompes par rapport à la Gemara. T'as compris le truc? C'est-à-dire, ça peut venir comme ça ou comme ça, Enbaya. Mais si ça vient doucement, doucement, alors reconnais que c'est la Géoula. Mais il y a des gens, parce que ça vient doucement, doucement, étape après étape, ils disent, c'est pas votre Géoula, c'est pas une Géoula, ça. Ça, c'est une erreur. Tu peux, pendant 2000 ans de galoute, lever le drapeau de le Mashiach, il viendra en un instant. C'est plus simple, hein, Erchagaf. Parce que si t'es en plein de galoute, t'es à 3, avec Rashi, et tu t'installes, et tu commences à lire que la Géoula, elle vient doucement, doucement, tu dis, mais comment elle va venir la Géoula? On est en plein de France. Il y a les croisades. Il y a les croisés, ils arrivent à Jérusalem. Comment? On n'a rien. Les juifs se font tuer sur les routes d'Europe et quand ils arrivent à Yerushalayim, les femmes et les enfants juifs se font tuer. Comment la Géoula peut venir? Qu'est-ce qui peut tenir en galoute? C'est de dire, en un instant, tout peut changer. C'est pas un manque de Emouna. À four, une personne qui vit, malgré le rocher à galoute, l'obscurité de la galoute, il dit, tout peut changer en un instant. Minametsar Karatia, Naniba Mechavia, Kadosh Bourou, il peut tout changer en un instant. C'est une grande émouna. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils vont, à cause de ça, quand la Géoula, elle commence à avancer, doucement, doucement, et ils n'arrivent pas à voir Ayelet Hachachar, ils n'arrivent pas à voir cette lumière qui nous sort de la rue, de la nuit, et qui commence à dire non, c'est pas la Géoula, ça c'est un problème. Ça c'est un gros problème. Parce qu'ils auraient dû avoir les yeux de Rabbi Chiya. Les yeux de Rabbi Chiya de savoir, voilà, ça c'est la Géoula. D'ailleurs, Hagav, je t'explique tout de suite. Je te dis la fin. Si on n'avait pas eu le Rav Kook, on n'aurait pas pu dire, ni toi, ni moi, que c'est la Géoula. Si je me réveille le matin, tu ouvres le journal aujourd'hui en Eretz Israël, tu te dis, mais c'est pas la Géoula, ça. Quand tu ouvres Oroth, les lumières, alors tu peux dire, waouh, j'arrive à comprendre. J'arrive à voir la lumière. Mais si tu regardes le journal, ça dépend que tu lis. Les gens qui lisent le journal, ils peuvent pas voir la Géoula. Les gens qui lisent Oroth, ils peuvent voir la Géoula. Il faut avoir des yeux de Rabbi Chiya. Ken, il est. Alors je vais t'expliquer. Bonne nouvelle, Hillel. Hillel, d'abord c'est beau ce que tu dis parce que c'est en rapport avec ton nom. Hillel, Beth Hillel, Hillel et Shammai. Shammai, tant que c'est pas arrivé, lui il voit au loin, au loin, au loin. Il voit Shammai. Toi tu vois Hillel, ce qui est maintenant présent. Par rapport à la situation d'aujourd'hui, on verra les mécorotes, on est en plein soleil. On est en plein soleil. Si à l'époque du Rav Kook, tu ne voyais pas, je peux comprendre. Mais si aujourd'hui une personne ne voit pas, il y a un problème. C'est peut-être une lumière qui l'aveugle. C'est peut-être une lumière qui l'aveugle. Il faut qu'il mette des bonnes lunettes. Alors on va apprendre comment à mettre des bonnes lunettes. Des réfléchir. Regardez au Makor numéro 2, on va essayer de situer la Megillah au niveau historique. Stein. Qui koamar Adonai, que les filles mélotes les Babel Shivim Shana, Efkod Otrem, va kimoti alechem et devari atov, la shiv etrem à la makomaze. Qu'est-ce que dit Yirmiyahu? Le prophète Yirmiyahu dit, qui koamar Hashem, ainsi parle Hashem, qui les filles mélotes les Babel Shivim Shana, lorsque Sauron remplit Mélot, les Babel à Babel, Shivim Shana, 70 ans, 70 années, Efkod Etrem, je me souviendrai de vous. Va kimoti alechem et devariatov, et j'établirai sur vous ma bonne parole. C'est quoi ma bonne parole? Lehashiv etrem, de vous ramener, lehashiv, tshuva, de vous ramener el hamakom hazé, vers cet endroit-là. De quel endroit on parle? De Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la prophétie de Yirmiyahu. Yirmiyahu, Akadosh Baruch Hu par Yirmiyahu, va lui annoncer, il va avoir un départ en galout, mais vous allez revenir. Il va avoir un départ en galout et vous allez revenir. Comment s'est passé ce départ en galoute? Prenez la feuille de la chronologie. La feuille de la chronologie, sans ça, on ne peut pas savoir, on ne peut pas véritablement comprendre ce qui se passe par rapport à Pourim. Au niveau de la chronologie, l'histoire, elle commence. À quel moment elle commence? Pour nous, elle commence en 1948. En 1948, c'est la naissance de Avraham Avinu. Je rappelle les paroles du professeur Neher, hein, la naissance de Avraham Avinu est pour le Ham Israël, que l'État d'Israël sera pour les nations. L'État d'Israël, il est né en 1948 selon le compte des nations. Chez nous, Avraham Avinu, il est né en 1948 selon le compte hébraïque. Ce que Avraham, il a fait pour l'âme Israël, c'est ce que l'État d'Israël doit faire pour les nations. 1948, naissance d'Avraham Avinu. 100 ans plus tard, on est en 2048. Vous voyez tout en haut la frise? Naissance d'Israël. À partir de 2048, on compte 400 ans d'exil en Égypte. On est en 2448. On sort d'Égypte, on reçoit la Torah. On rentre, on reste 40 ans dans le désert. On rentre en Eretz Israël en 2488. Qui nous fait rentrer en Eretz Israël? Yehoshua. Lorsqu'on est rentré en Eretz Israël, il y a toute la période qu'ils appellent la période de Yehoshua et des Shoftim et des juges. C'est une période très dure pour l'âme Israël. On fait la conquête d'Israël d'une partie. L'âme Israël se comporte bien, ils sont indépendants. L'âme Israël fait de la Vodazara, ils perdent l'indépendance. Lorsque l'âme Israël perd l'indépendance, il la perd pour 30, 40 ans. Il souffre. Qu'est-ce que fait l'âme Israël? Il pleure. Il prie. Il font des jeûnes. Il demande à Kadosh Baruch Hu une Géoula. Qu'est-ce qu'amène à Kadosh Baruch Hu la Géoula? Par qui? Par un chauffette, par un juge, qui est un chef d'armée, tzadik, qui va libérer l'âme Israël au niveau militaire, au niveau souveraineté. Ils vont faire la guerre contre les ennemis. Ils vont retrouver l'indépendance. Et de nouveau, l'âme Israël va être indépendant pendant 30, 40 ans. Et de nouveau, l'âme Israël va tomber dans la Vodazara, l'idolâtrie. Et de nouveau, il va souffrir parce qu'il est dominé par les nations. Et de nouveau, il va prier. De nouveau, il fait tchouva. De nouveau, Kadosh Baruch Hu l'emmène un chauffette. Ça, pendant une période environ de 400 ans. Ça marche? Un beau jour, va se lever un prophète. Ce prophète s'appelle Shemuel. Shemuel, il va nommer le premier roi d'Israël, Shaoul. Après Shaoul, il va avoir David. Après David, il va avoir Shlomo. Avec Shlomo, on va construire le premier Beth Amikdash. Sauf, on est en Eretz Israël. Avec un roi tzadik qui construit le Beth Amikdash, on est au top du Ham Israël. Et ça pendant 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, dit la Gemara, Shlomo HaMelech et son Beth Din et son tribunal divin ne recevaient pas des convertis. Pourquoi? Parce que c'était l'âge d'or du Ham Israël et on avait peur que les gens qui venaient se convertir, c'était convertir par intérêt économique. Donc il n'acceptait pas les conversions pendant 2 ans et demi. Maintenant, regardez en quelle année on est, nous sommes. En quelle année le Beth Amikdash est construit? En quelle année il est construit? 2928. Maintenant, si vous avez des questions, pourquoi tout le temps les événements historiques de l'Israël se finissent par 8? La réponse, elle est simple. C'est quoi? Parce que Bidouk. 8, c'est la forme du Netzach. C'est l'éternité. C'est la forme de l'infini. L'histoire du Ham Israël, elle est infinie et elle est surtout 8. C'est quoi 8? Elle est surnaturelle. Elle est dans la nature, mais elle est surnaturelle. En 2928, Shlomo HaMelech. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Shlomo va mourir. Quand Shlomo meurt, il a un fils. Le fils est Rechavam. La première des choses que va faire le Ham Israël par rapport à Shlomo, après sa mort, c'est tuer, pendre le Sar HaOtzar, le ministre des Trésors. Pourquoi? Parce que le Sar HaOtzar, il l'accusait de prendre trop d'impôts auprès du Ham Israël. Vous savez, quand il y aura le Bezrat Hashem, le Beth Amikdash, les impôts doubleront. Pourquoi les impôts doubleront? Vous voulez toujours le Beth Amikdash? À cause des korbanot. Mais pire que ça, ça sera tout le temps tous les ans, les Avdil et les Fevdalot ben Kodesh, la Touma, pour faire une différence entre le Kodesh et ce qui est Tamé, les Jeux Olympiques en Eretz Israël. Ou la Coupe du Monde en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que toutes les nations du monde viendront voir le Beth Amikdash. C'est-à-dire les touristes qu'il y a en Eretz Israël aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce qu'il y aura quand on aura le Beth Amikdash qui sera construit. Maintenant, accueillir toutes les nations du monde. Le royaume de France, le royaume d'Allemagne, le royaume des États-Unis, le royaume, etc. Tous les royaumes du monde, ça coûte énormément d'argent pour l'État. Ils dépensent énormément d'argent. Ça fait rentrer l'argent, mais pas assez. On en dépense énormément. Les korbanot, les kohanim, les lévi'im, les lomes des Torah, sur le peuple, il pèse une charge énorme. Pour se venger de ça, qu'est-ce que fait le peuple? Va pendre le Saraotsa. Rechavam, c'est le fils de Shlomo HaMelech. Il doit prendre sa suite. Rechavam, sous les conseils de ses amis, vont dire, il faut que tu t'installes sur ton trône fort et il faut que tu augmentes les impôts. Qu'est-ce que disent les anciens? L'Eskenim lui dit, n'augmente pas les impôts. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la prestance et la stature de ton père, Shlomo. Il faut te faire accepter aux yeux du peuple. Sois un peu démagogue, baisse les impôts. Qu'est-ce que Rechavam va faire? Il va augmenter les impôts. À ce moment-là, se lève un homme, Yerovam. Yerovam va faire la rébellion contre Rechavam. Il va faire une guerre, il va prendre avec lui 10 Shvatim, 10 tribus, et il va créer un royaume, un deuxième état d'Israël. Tout ça à partir de Bethel au nord de Yerushalayim, jusqu'au nord d'Israël, il va avoir 10 tribus qui vont fonder un deuxième état d'Israël qui va s'appeler Malchut Israël. Rechavam va rester avec Binyamin, le chevet de Binyamin, Yehuda, parce qu'il est du chevet de Yehuda, et les Kohanim et les Levim qui sont Beth Amikdash. On a deux états d'Israël, un à la tête, le fils de Shlomo HaMelech, Rechavam, Malchut Yehuda, le royaume de Judée. Deux, Yerovam, Malchut Israël, en tête, Yerovam. Le Ham Israël se pose la question. C'est quoi la question qui se pose? Hey, on veut retourner à Yerushalayim pour faire des korbanot. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, c'est très simple. Yerovam empêche les gens de monter à Yerushalayim. Et en empêchant les juifs de monter en Yerushalayim, il empêche de faire des fêtes. Mais il a trouvé la solution. On ne va pas de faire des fêtes à Tishrei et à Pessah. On va faire les fêtes un mois où il n'y a pas de fête. Quel mois où il n'y a pas de fête? Cheshvan. Et il va faire au mois de Cheshvan les fêtes idolâtres de Malchut Israël, du royaume d'Israël. Il va dire, qu'est-ce qu'on a fait avant de servir à Kadosh Baruch Hu? On avait un veau d'or. Ben, qu'est-ce qu'il va faire, Michael? Il va faire un veau d'or. Il va faire pas un, il va en faire deux. Il va en mettre un à Bethel et un à Dan, au nord, à côté de Haïfa. Ces deux veaux d'or qui vont être là-bas, c'est là où les Malchut d'Israël, les 10 tribus, elles vont venir faire leur sacrifice pour les fêtes d'Akadosh Baruch Hu à la place des fêtes de Tishrei. Et là, il va se passer une catastrophe terrible. En Assyrie, qui s'appelle Ashur en ivrite, il va se lever un nouveau roi. Le nouveau roi, il s'appelle Sanhérib. Sanhérib, il se lève. Lorsque on est en Assyrie, Sanhérib, c'est la force en place. Au même moment, ce qui va se passer, Malchut Israël, Malchut Yehuda, ils vont faire la paix. Le mur de Berlin ou le mur du nord de Jérusalem va tomber. De nouveau, les 10 tribus, elles peuvent retourner à Yerushalayim pour faire des korbanot. Mais elles ne retournent pas. Elles continuent leur idolâtrie, elles ne retournent pas en Israël. Elles ne retournent pas en Israël, elles ne retournent pas à Yerushalayim. Qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Vous avez oublié Yerushalayim? Donc qu'est-ce que vous faites ici? Ça ne sert à rien d'être ici. Vous pouvez retourner à Yerushalayim mais vous ne retournez pas? Pendant 200 ans, ils ne pouvaient pas retourner à Yerushalayim, pas de problème. T'es à nous, tu peux pas partir. Il n'y a pas Elal, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bateau. Tu ne peux pas traverser le mur, il y a des soldats du royaume d'Israël qui t'empêchent d'arriver à Yerushalayim. Alors Akadosh Baruch Hu, il ne peut rien te dire. T'es à nous, c'est un cas de force majeure. Tu ne peux pas monter en Israël. Mais quand tu peux monter en Eretz Israël, quand tu peux retourner à Yerushalayim mais tu ne le fais pas, alors là, Akadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez rien à faire en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu éveille l'esprit de Sanhérib et Sanhérib, un beau matin, il se réveille et dit, je veux conquérir Israël. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de faire la conquête d'Israël. Il rentre par le nord d'Israël, il attaque le royaume d'Israël, il prend les 10 tribus et il les disperse dans le monde entier. C'est les fameuses 10 tribus perdues. Et on en retrouve en Chine, on en retrouve en Inde, on en retrouve en Afghanistan, on en retrouve dans le monde entier. C'est les fameuses 10 tribus perdues. Elles ont été exilées d'Eretz Israël parce qu'elles ne voulaient pas retourner à Yerushalayim. En quelle année ça se passe? Regardez. Exil d'Assyrie, tout en bas. Vous l'avez ici. C'est en 3205. Vous l'avez ici, là, sous le sous-marin.
malheur aussi d'Israël aussi sur ce constitue un dîner qui par simple. Le premier point de détermination est une vote en
135. Ok. 3000. Slicha, on est en. Qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, 3205, c'est exil d'Assyrie. Maintenant, un poème. Qu'est-ce que ça veut dire exil? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on part en galoute? Imaginez-vous, vous rappelez ce qu'a failli Chas v'Shalom se passer, hein, s'il n'y a pas eu toute l'histoire des trois enfants qui ont été tués, kidnappés et tués, et Tsouk Etan et la guerre cet été. Hein, qu'est-ce que le Hamas avait prévu? Le Hamas avait prévu de rentrer en force en Eretz Israël pour faire un massacre, Chas v'Shalom, en Israël. C'est-à-dire, on a tous entendu ça. C'est une catastrophe ou c'est pas une catastrophe? C'est une catastrophe. Si ça s'était passé, Chas v'Shalom, ici, sur notre terre, avec nos frères, etc., ça aurait été une catastrophe. Au niveau moral, c'est une catastrophe. Maintenant, de quoi je suis en train de vous parler là? Galout Ashur, que Sancheriv, c'est comme si Daïch, aujourd'hui c'est facile de s'imaginer ça, Daïch, il fait la conquête de la Syrie, il gagne la Syrie. Il gagne le Liban. Ils sont au nord d'Israël. Et un beau jour, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Pas d'envoyer des missiles, de faire la conquête du nord d'Israël jusqu'à Yerushalayim et de prendre tous les juifs et les jeter dans le monde entier. C'est un traumatisme ou c'est pas un traumatisme? Personne ne pensait que ça pouvait se passer. Nous, on lit ça, on connaît l'histoire. Oui, il y a eu Galout. Attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Oui, il y a eu la Galout. C'est quoi la Galout? La Galout, c'est personne ne pensait que ça pouvait se passer. En étant en Eretz Israël, on pensait qu'on était là pour l'éternité. Nous, on est à la fin, on est après 2500 ans, alors on peut commencer à traiter l'histoire. Il fallait qu'ils fassent ça, il fallait partir, il fallait faire tchouva, il fallait faire des corbanotes. Franchement, d'avoir oublié Jérusalem, c'est pas yafé. Pourquoi vous avez oublié Yerushalayim? Nous, Akadosh Baruch Hu vous a puni. C'est vrai, nous, on connaît la fin de l'histoire. Qu'à la fin, ils vont revenir et qu'à la fin, on va reconstruire de nouveau Yerushalayim. Eux, ils connaissent pas la fin de l'histoire. C'est quoi de pas connaître la fin de l'histoire? Tu te retrouves en Eretz Israël. Talbet Amigdash, Malchut Yehuda, déjà l'État il s'est divisé en deux, tu te poses la question, mais comment c'est possible, comment on va se réunir? Deuxième étape, tu vois que le deuxième État d'Israël, il se fait, c'est pas détruire, tous les Juifs sont perdus, c'est pas qu'ils sont là dominés par des ennemis, ça on l'a connu pendant l'époque de Shoftim, on était dans notre pays, dominé par des ennemis, là c'est une autre étape, on n'est plus dans notre pays. C'est la première fois qu'on vit en tant que nation, la déportation. Nous, on connaît la fin, mais ils ne connaissaient pas la fin. Eux, ils comprennent que c'est une punition énorme. C'est la fin du Ham Israël. Eux, ils voient ça comme la fin du Ham Israël. Perdus, elles sont perdues à vous, dis-moi, on ne va plus les retrouver. Nahon, il y a un prophète, il y a un rabbin là-bas. Je ne l'entends pas parce qu'il ne parle pas assez fort. Il y a un prophète comme ça qui dit qu'ils vont revenir. Mais moi, je ne les vois pas, moi. On essaye de les retrouver, on ne les retrouve pas. Comme ça ne rêve, on ne peut rien. Ça, c'est ce qui se passe à Malchut Israël. Mais dans Malchut Yehuda, la vérité, c'est qu'ils n'ont même pas le temps de penser à ça. Parce que les 10 tribus sont perdues. Mais Sancheriv, lui, il veut aussi Malchut Yehuda. Il arrive, Malchut Yehuda, il arrive à la frontière avec le royaume de Judée. Et il arrive à Yerushalayim. Mais donc, qu'est-ce qu'il pense Yerushalayim? C'est la fin. C'est la fin, Chas v'Shalom. C'est la fin du Ham Israël, Chas v'Shalom. Parce que ce qui s'est passé, Malchut Israël, ils sont plus forts que nous. Ça va se passer aussi chez nous. Qui est le roi à cette époque? Tzidkiyahou. C'est Desias. Tzidkiyahou, c'est le roi. Et qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Ils vont découvrir, d'abord, Sancheriv fait un siège énorme autour de Jérusalem. Quand vous visitez Yerushalayim, on vous montre les remparts de Tzidkiyahou. Les remparts de Tzidkiyahou, c'est d'ici jusque là-bas, que des pierres en hauteur. C'est-à-dire, tu ne peux pas percer ça. Eux, ils sont prêts à tenir le siège à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui manque? De l'eau. Comment tu veux vivre sans eau? On ne peut pas vivre. Et qu'est-ce qu'il découvre, Tzidkiyahou? Mais Chesdé Hachem, il découvre qu'en dessous Jérusalem, il y a de l'eau. C'est ce qu'on appelle dans Ir David, quand on passe sous les tunnels, etc. Il découvre qu'il y a de l'eau. Et là, hein, il crie, ça y est, on a gagné. On peut tenir le siège. Ça ne va pas s'arrêter là. Akadosh Baruch Hu, il va faire des miracles qui vont faire peur à Sancheriv et que Sancheriv va partir. Il va, ok, mais qu'est-ce qui va se... L'armée va être repoussée. L'armée va être repoussée. Alors, il va avoir des chars, ils vont avoir peur, ils vont partir, ils vont être tués, etc. Miracle. C'est sûr qu'il y a un miracle. Mais à l'intérieur de Tzidkiyahou et le Ham Israël, ils ont une confiance énorme en eux. Ils n'ont ni invincible. Ça s'appelle comment en hébreu ça? Ga'ava. Ga'ava. On commence à penser qu'on est fort en oubliant d'où vient la source de notre force. Et à partir du moment où tu as la gava, c'est fini. C'est l'histoire de 120 ans. On est 120 ans avant la destruction du premier temple. Pendant 120 ans, la société d'Israël, elle va tomber dans les pires fautes. Giloui Arayot, Avodah Zara, Shfichut Damim. Le meurtre, l'idolâtrie et les mauvaises mœurs. D'où ça vient? La gava. À partir du moment où tu as la gava, tu peux tomber dans ces fautes-là. Yirmiyahu, lui, va être le prophète qui va être dans la période vers la destruction du premier temple. Yirmiyahu, il va être appelé le prophète des malheurs. Tout le monde va vouloir le tuer. Pourquoi tout le monde veut le tuer? Parce qu'il va se passer une chose terrible. La mamlacha, le royaume de Ashour, va tomber et va se lever un nouveau royaume. Le nouveau royaume qui va se lever, c'est Babel. Babel, c'est le nouveau royaume dans le Moyen-Orient. Son roi, c'est Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Et ce Nebuchadnezzar, il veut conquérir le Moyen-Orient. Maintenant, pour conquérir le Moyen-Orient, il y a un problème. C'est quoi? Il fait la conquête de Ashour, de la Syrie. Lui, il vient de Babel, l'Irak. Il fait la conquête au nord. Le deuxième empire en place, c'est Mitzrayim. Il y a un combat entre deux empires, l'empire d'Égypte. Vous voyez que l'Égypte tient encore, même après la sortie d'Égypte, etc. L'Égypte est encore présente, est forte au Moyen-Orient. Et l'empire de Babel, ils sont les deux empires qui vont se disputer le Moyen-Orient. Qui c'est qui est au milieu? Qui est au milieu? Malchut Yehuda, le royaume de Judée. Yerushalayim, Hebron, Kiryat Gat, c'est tout petit, mais ça existe. Il y a un Beth Amikdash et il y a un Israël. Ils vont se retrouver entre les deux empires. D'un côté Babel et d'un côté Mitzrayim. Babel, eux, ils veulent faire la conquête du monde. Qu'est-ce que va faire Akadosh Baruch Hu? Il va voir que le Ham Israël est tellement corrompu au niveau de sa nation qu'il leur demande de ne pas faire la guerre contre Nebuchadnezzar et de se rendre à Nebuchadnezzar et qu'ils deviennent un roi telé de Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Pour ça, il envoie un homme, un prophète, un tzaddik, le Navi de cette génération, Yirmiyahu. Et Yirmiyahu, qu'est-ce qu'il dit? Toute la journée, dans les rues d'Yerushalayim, rendez-vous à Achashverosh, rendez-vous à Nebuchadnezzar, rendez-vous à Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que tu fais si tu rencontres une personne comme ça qui dit aujourd'hui rendez-vous à je sais pas, à qui? À Nier, rendez-vous à Nier, rendez-vous à Nier, qu'est-ce que tu fais? Ok? Yirmiyahu, il a la fonction de dire au peuple Israël, arrêtez votre sionisme. On n'a pas le droit d'être sioniste. Vous nous faites des problèmes, ce n'est pas la volonté d'Hachem. Rendez-vous au serviteur d'Hachem, Kenevuchadnezzar. À l'époque de Yirmiyahu, il ne fallait pas être sioniste. Il fallait être chassid de Satmer, Naturé Karta, le plus des Naturé Karta qui puissent exister. Parce que si tu es sioniste, tu vas à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu. Une personne dit, on doit être sioniste ou on ne doit pas être sioniste? J'ai dit, ça dépend. Je cherche pas à savoir si on doit être sioniste ou pas être sioniste. Je veux savoir, Maretsono Shel HaKadosh Baruch Hu. Quelle est la volonté d'Hachem? À l'époque de Yirmiyahu, je vous dis, il ne fallait pas être sioniste. Il fallait être anti-sioniste. Contre l'État. Contre cette volonté d'être un peuple sûr de lui-même et d'être dominateur, indépendant. Amchov Shibar Tsenu Assur! Parce que c'est la volonté d'HaKadosh Baruch Hu, c'est d'être sous la tutelle de Nebuchadnezzar. Afour! Le Machon Meir ne pouvait pas exister à l'époque de Yirmiyahu, en Malinsot. Non, à fou. Le Machon Meir, il aurait existé. Et il aurait continué ce que Yirmiyahu a dit. Il aurait été Poel. On aurait fait des ONG. On serait parti avec plein de drapeaux de Nebuchadnezzar. On aurait fait des manifestations. Il faut se rendre à Nebuchadnezzar. On aurait dénoncé les Juifs qui construisent de nouvelles villes en Israël. On aurait dénoncé ça à Nebuchadnezzar. D'Echagad, Nabucodonosor, il a compris tout ça. Il donne un laissez-passer à Yirmiyahu. Il rentre et il sort comme il veut entre l'Empire babylonien et Malchut Yehuda. Franchi, là où tu peux aller, on te paye les meetings que tu vas faire, on paye les cours, on paye tout le support internet, le web, pour pouvoir diffuser ta Torah. Dis-leur à ces Juifs qu'on doit se rendre à Nebuchadnezzar. C'est l'intérêt du peuple babylonien. Ça, c'est Yirmiyahu. Yirmiyahu, tout le Ham Israël voulait le tuer. Il y avait des Nevi'im, des prophètes, Nevi et Sheker, des prophètes de mensonges. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à critiquer Yirmiyahu. Ils font non, shalom, shalom, shalom. Yirmiyahu dit, en shalom. Tu vas entendre des gens qui vont dire le shalom, le shalom, le shalom. Et en fait, il n'y a pas le shalom. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Hein. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Des gens te disent shalom, 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 en se rendant à je ne sais pas qui, à Balbemet en shalom. Mais à l'époque de Yirmiyahou, le shalom d'Afka, il était du fait que tu te rendes, que tu ne sois pas nationaliste. Yirmiyahou, il va être jeté en prison. Yirmiyahou, ils vont vouloir l'assassiner. Et un beau jour, il se balade dans les rues de Jérusalem. On finit sur ça pour aujourd'hui. Et il rencontre un prophète. Un prophète sur son passage. Qu'est-ce qu'il faisait Yirmiyahou pour montrer ses prophéties? Il se baladait dans les rues de Jérusalem avec un hall. Le hall, c'est ce qu'on met sur le joug, c'est ce qu'on met sur les bêtes, pour pas qu'elles bougent à droite et à gauche, qu'elles continuent tout droit, le bœuf, pour pouvoir le travailler la terre. Donc il se baladait comme ça avec le hall en disant il faut être sous le hall, sous le joug de Nebuchadnezzar. Et un beau jour, il y a un prophète qui arrive et il cite une névoie, il lui casse le hall. Il lui casse le hall et dit « Hachem détruira le joug de Nebuchadnezzar et le Ham Israël vivra et gagnera. » Et là, Yirmiyahou a un moment d'hésitation. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Il se reconnecte avec HaKadosh Baruch Hu et il lui dit « Navi Sheker, tu as dit une névoie de mensonge, tu mourras cette même année. » Et ce prophète, il est mort cette même année alors que c'est un tzadik. Mais il a dévoilé une prophétie qu'il ne fallait pas dévoiler maintenant. La prophétie, c'est spécial. Il y a des choses que tu n'as pas le droit de dire. Comme une parole de Torah. Il y a des paroles de Torah que tu n'as pas le droit de dire. Il faut faire attention à ce que tu dis par rapport à la génération, par rapport à la période, par rapport à savoir si c'est maintenant que HaKadosh Baruch Hu, il veut dévoiler ces choses. À la fin de sa vie, le Rav Kook, il est mort à 75 ans. Il est mort relativement jeune. Mais quand ça dit qu'il est mort à 100 ans, 90 ans, 100 ans. Il a dit, Kaniré, j'en ai trop dit. J'ai dû dire trop de choses. Pourquoi? Parce que les paroles de Torah, il faut faire attention. Quand est-ce que HaKadosh Baruch Hu, il a besoin qu'elles se dévoilent au Ham Israël? Le Maharal de Prague, par exemple, il a écrit il y a 400 ans, au 16e siècle, à la fin du 16e siècle. Et pendant 400 ans, personne n'a étudié le Maharal de Prague, seulement les grands, des Chassidouyot, seulement les Admourim. Sinon, ça ne s'est pas du tout étudié par l'Ham Israël. Pourquoi? Parce que HaKadosh Baruch Hu, il ne voulait pas qu'on étudie ça. Aujourd'hui, Baruch HaShem, ça se propage. Les paroles de Torah, c'est comme une névoie. Il faut savoir à quel moment il faut les faire ressortir. Pas tous les moments. Et les Mekoubalim, c'est ce qu'ils font. Il y a des choses qui se dévoilent et des choses qui ne dévoilent pas. Et c'est ce qui s'est passé avec la névoie. La névoie de Yirmiyahou, il fallait la dévoiler à ce moment-là. Si, bien sûr, une personne aujourd'hui, elle commence à se balader dans les rues de Jérusalem et qui répète les prophéties de Yirmiyahou, c'est sûr qu'il y a un problème. Mais ce même Yirmiyahou, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va dire... On va partir en galoute. On va partir en galoute, mais c'est pour 70 ans. Dans 70 ans, on revient. Maintenant, tu fais confiance ou tu ne fais pas confiance? Toi, tu dis quoi? On va devoir quitter Yerushalayim. Yerushalayim va être détruite. Yirmiyahou te dit oui, mais ça prendra 70 ans. Et nous, on va voir quand est-ce que les 70 ans vont se finir et de quelle façon les Juifs vont revenir en Eretz Israël. Shavua Tov.